Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive et par le mont Sinin et par cette cité sûre très certainement nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce samedi 1er octobre 2022. Tout de suite, je vais vous présenter le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Les États-Unis et le Royaume-Uni sont directement impliqués dans les récentes émeutes en Iran, a affirmé le ministère iranien des renseignements. Les avions de combat des forces aérospatiales russes ont mené vendredi au moins 12 frappes aériennes sur le Grand Idlib, visant les positions des terroristes Ayatollah al-Sham. Au Burkina Faso, le chef de la junte démis de ses fonctions, annoncent des militaires à la télévision. C'étaient les principaux titres, en voici le journal. Le ministère iranien des renseignements affirme que les États-Unis et le Royaume-Uni ont été directement impliqués dans les récentes émeutes à travers l'Iran. Des dizaines de terroristes affiliés au régime sioniste et au groupe anti-révolution ont été arrêtés au cours des derniers jours de troubles, a indiqué le ministère dans un communiqué vendredi 30 septembre. De violentes manifestations ont éclaté dans tout le pays. Des agents de sécurité ont été attaqués, des biens publics ainsi que des véhicules de police et des ambulances ont été vandalisés. Le ministère des Renseignements a déclaré que les principaux éléments à l'origine des émeutes étaient en grande partie des citoyens étrangers, des membres de l'organisation terroriste anti-iranienne Mujahideen Khalr, OMK, en Albanie, et des personnes travaillant avec d'autres groupes terroristes anti-révolution. Le ministère des Renseignements a souligné que 49 terroristes OMK avaient été arrêtés pour avoir activement propagé de fausses nouvelles, incité les émeutiers à organiser des actes de terreur et de destruction, dirigé des slogans et pour avoir été présents dans les rues pour endommager les biens publics. Le ministère a indiqué que 77 membres de groupes terroristes anti-iraniens avaient également été arrêtés dans la région du Kurdistan irakien. La déclaration a souligné la détention de 5 membres des groupes terroristes avec 66 kg d'explosifs qui devaient être utilisés pour effectuer des attentats à la bombe lors des rassemblements. Le ministère a en outre déclaré que 92 personnes affiliées à l'ancien régime Pahlavi, soutenues par les États-Unis, avaient été également identifiées et arrêtées lors des émeutes. Il a ajouté que 9 ressortissants d'Allemagne, de Pologne, d'Italie, de France, des Pays-Bas et de Suède, entre autres, avaient été arrêtés lors des émeutes. Le ministère des Renseignements a également déclaré qu'un nombre important de pistolets, divers types de mitrailleuses et de cartouches ainsi que des fusils de chasse et des munitions avaient été saisis. Le commandant de l'unité de renseignement du corps des gardiens de la révolution islamique dans la province du Sistan et Baloutchistan dans le sud-est de l'Iran a été tué lors d'affrontements avec des éléments anti-révolution islamique qui ont ouvert le feu près d'une mosquée dans la capitale provinciale de Zahedan. à la suite d'une attaque terroriste contre un poste de police à Zahedan, vendredi 30 septembre. Un groupe armé s'est rassemblé près de la mosquée Maki et a commencé à tirer, ce qui a incité les forces de sécurité à se rendre immédiatement sur les lieux. Le commandant du CGRI, Ali Moussavi, a été blessé par balle à la poitrine et transporté à l'hôpital, mais il a succombé à sa blessure. Le gouverneur du Sistan et Baloutchistan, Hossein Modarres Khiabani, a déclaré qu'au moins 19 personnes, dont des membres de la police, ont été tuées et 20 autres blessées dans l'attaque terroriste au poste de police. Selon lui, un certain nombre d'émeutiers affiliés à des groupes terroristes, dont les identités sont claires, ont attaqué le poste de police et jeté des pierres et ouvert le feu, provoquant une vive réaction des forces de police. Les terroristes ont également incendié un camion de pompiers, un poste d'urgence et une banque. Mais leurs tentatives de poursuivre les émeutes ont échoué suite à la présence opportune des forces de sécurité. Dans un communiqué, le groupe terroriste Jaish al-Zulm a revendiqué l'attentat de Zahedan. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a salué les récentes frappes contre des cachettes terroristes dans la région semi-autonome du Kurdistan irakien, affirmant que la République islamique d'Iran se réserve le droit de défendre sa sécurité nationale face à tout acte d'agression provenant de n'importe quel territoire. Comme averti précédemment, la République islamique d'Iran, sur la base du droit international et des dispositions de la Charte des Nations Unies, se réserve le droit de défendre sa sécurité nationale contre tout acte d'agression venant de n'importe quel territoire, a déclaré Nasser Kanani dans une déclaration vendredi 30 septembre. Il a dénoncé les déclarations et les positions des pays occidentaux concernant les attaques des forces armées iraniennes contre des bases terroristes dans la région nord du Kurdistan irakien. M. Kanani a déclaré que ces groupes avaient mené des actes de terreur contre l'Iran et alimenté des troubles intérieurs dans le pays. Le responsable iranien a déclaré que des pays tels que les États-Unis et l'Allemagne avaient publié des déclarations unilatérales tout en violant leur responsabilité internationale dans la lutte contre le terrorisme. Ces États, a-t-il dit, affichent un comportement sélectif et discriminatoire et ignorent leurs propres actes d'ingérence et la violation de la souveraineté des autres pays. Il a également déclaré que l'Iran avait appelé à plusieurs reprises les responsables du gouvernement central de Bagdad et du gouvernement régional du Kurdistan irakien à empêcher les activités des éléments et groupes séparatistes et terroristes qui travaillent contre la République islamique d'Iran. L'Iran a toujours exprimé sa ferme objection à l'accueil par la région du Kurdistan irakien des groupes terroristes anti-iraniens et à leur mouvement contre l'Iran. L'Iran ne tolérait jamais aucune menace découlant de la proximité de ces zones frontalières, a ajouté le responsable iranien. Plus tôt dans la journée du vendredi, le président des chefs d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bareilly, a mis en garde les forces américaines contre la coopération avec des terroristes anti-iraniens dans la région du Kurdistan irakien, affirmant que Téhéran riposterait à toute action hostile contre les drones iraniens. Les avions de combat des forces aérospatiales russes ont mené vendredi 30 septembre au moins 12 frappes aériennes sur le grand Idlib, visant les zones proches des villes de Meysepin et Reveyha, où se trouvent les positions des terroristes Raya Tahrir al-Sham, soutenus par Ankara et affiliés à Al-Qaïda, et ont fait au moins 20 morts et de nombreux blessés, selon des sources proches du gouvernement syrien. Les frappes ont été menées en représailles aux violations répétées par Raya Tahrir al-Sham du cessez-le-feu dans le Grand Idlib, négocié par la Russie et la Turquie il y a plus de 2 ans. Ces derniers jours, les snipers de Raya Tahrir al-Sham se sont livrés à plusieurs opérations. Ces frappes coïncident d'ailleurs avec le 7e anniversaire du début des opérations antiterroristes russes en Syrie. Les toutes premières frappes aériennes russes dans le pays ont visé des positions clés de Raya Tahrir al-Sham, alors connues sous le nom de Front al-Nusra, dans le Grand Idlib et dans plusieurs autres régions. À Al-Tanf, dans le sud-est de la Syrie, les Syriens ont protesté contre la présence des terroristes de Marawil al-Saoura, affiliés à la coalition américaine. Les protestations ont commencé le 27 septembre dans le camp de réfugiés d'Al-Rukban, situé à quelques kilomètres seulement de la base américaine d'Al-Tanf, où quelques 200 soldats américains et 300 terroristes de Marawil al-Saoura sont généralement déployés. La coalition américaine maintient une zone d'exclusion aérienne de 55 km autour de cette base, couvrant le camp d'Al-Rukban, où des centaines d'autres terroristes sont présents. Le taux d'inflation dans la zone euro s'est élevé à 10% en septembre, un nouveau record depuis le lancement de la monnaie unique européenne en 1999, selon une estimation flash publiée vendredi 30 septembre par Eurostat, l'Office des statistiques de l'Union européenne. Ce taux marque une augmentation par rapport à son niveau de 9,1% en août, qui était déjà un record selon Eurostat. Les prix de l'énergie, qui marquent une progression de 40,8% en septembre par rapport à l'année précédente, constituent une nouvelle fois la plus forte contribution à l'accélération de l'inflation. La progression correspondante en août était de 38,6%. Le Burkina Faso a connu vendredi 30 septembre un second coup d'État en 8 mois. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, arrivé au pouvoir par un putsch fin janvier, a à son tour été démis de ses fonctions par des militaires. Après une journée marquée par des tirs dans le quartier de la présidence à Ouagadougou, une quinzaine de soldats ont pris la parole sur le plateau de la radiodiffusion télévision du Burkina Faso peu avant 22 heures. Ibrahim Traoré a lu un communiqué annonçant la mise à l'écart de Paul-Henri Sandaogo Damiba, la dissolution du gouvernement et la suspension de la constitution, ainsi que la fermeture des frontières du pays jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu de 21h à 5h a également été mis en place. Le nouvel homme fort du pays, désigné président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, organe dirigeant de la junte, est désormais le capitaine Ibrahim Traoré, a-t-il ajouté. Les pugistes ont également annoncé la fermeture des frontières ainsi que la suspension de la constitution et la dissolution du gouvernement. Plusieurs axes de la ville ont été bloqués par des militaires, postés aux principaux carrefours de la ville, notamment devant le siège de la télévision nationale, dont le signal a été interrompu pendant plusieurs heures avant de revenir à la normale sans que la situation soit évoquée. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. L'apparition de Gérant 2, Shahed 136, la dessert occidentale en débandade. Plus de 10 jours après l'apparition des drones kamikazes iraniens sur le front de combat en Ukraine, toutes les armées occidentales se sont mises en branle pour les contrer. Mais pas facile du tout. Le 23 septembre, à Odessa, 3 vagues d'attaques de Gérant 2 ou Shahed 136, les bases de drones marines, quitte à provoquer l'effondrement de commandement de Sud. Le Pentagone a publié une autre liste d'armes et d'équipements militaires qui seront transférés à l'armée ukrainienne. Cette liste suggère que les États-Unis continueront d'approvisionner l'Ukraine en augmentant progressivement leur offre militaire. Si à ce jour, les États-Unis ont affirmé avoir livré 16 lance-roquettes IMARS à l'armée ukrainienne, 18 autres sont en cours de transfert. L'administration Biden a engagé une aide d'une valeur de 17 milliards de dollars à l'Ukraine. Le dernier paquet comprend 18 DI-Mars. Il comprend également 12 systèmes Titan qui détectent, suivent et perturbent les drones. Un haut responsable du Pentagone a déclaré aux journalistes que les systèmes IMARS nouvellement engagés sont destinés à être un élément central de la force de combat ukrainienne à l'avenir. Une telle livraison est clairement liée à l'activation des véhicules aériens sans pilote d'attaque qui, ces dernières semaines, ont causé de graves dommages à l'armée et aux infrastructures ukrainiennes. Avec l'aide de Titan, les troupes ukrainiennes, bénéficiant des soutiens généraux de l'armée américaine, tenteront de contrer des drones kamikazes Shahed 136 iraniens. Pour tenter de contrer ces drones kamikazes, Kiev a appelé Israël à fournir des renseignements sur les contacts militaro-techniques entre la Russie et l'Iran. Rappelons que le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères avait souligné que l'antécédent de la coopération entre l'Iran et la Russie sur le plan de certaines technologies modernes remonte à l'avant-guerre en Ukraine. La Russie a acheté à l'Iran non seulement les drones kamikazes Shahed 136, mais aussi le Shahed 131. Compte tenu du numéro de série et des dimensions plus petites, Shahed 131 est une version antérieure de Shahed 136, mais avec un principe de fonctionnement similaire. Concernant les paramètres du Shahed 131, il est légèrement plus petit que le Shahed 136. L'envergure est de 2,2 mètres contre 2,5 mètres. La longueur est de 2,6 mètres contre 3,5 mètres. La masse au décollage est estimée à 135 kg contre 200 kg. La taille de l'ogive explosive à fragmentation Shahed 131 préformée est estimée à 10-15 kg. La portée du vol est estimée à 900 km. Le drone kamikaze est équipé d'un récepteur GPS qui permet au véhicule d'attaquer des cibles stationnaires. Le Shahed 131 dispose d'un système empêchant la substitution des signaux GPS par des moyens de guerre électroniques, ce qui peut être considéré comme une caractéristique distinctive. En allusion à l'usage par la Russie des drones Shahed 136 et Shahed 131 dans la guerre en Ukraine, le site web Defense Express a écrit « Ces drones ont une grande capacité furtive à échapper au radar ». Étant donné que l'Iran fait l'objet de sanctions, la construction de tels engins à l'intérieur du pays a ébloui les yeux. Les drones iraniens n'ont pas encore été examinés minutieusement par les experts, mais si leur capacité furtive au radar est si grande, la possibilité de les détecter avec des systèmes de défense sera faible. Les systèmes de défense antimissiles à longue portée S-300, à moyenne portée Boxam de fabrication russe et le système de défense aérienne allemand Gepard ne sont pas en mesure de faire face aux drones iraniens.
Bonjour à tous. Aujourd'hui est prévu le débat, donc deux invités, un sujet. Le sujet d'aujourd'hui, l'Ukraine et l'expérience des Russes concernant leur conflit en Syrie. Donc, comme vous le savez, à l'heure actuelle, la Russie est en conflit avec l'Ukraine à cause du Donbass notamment. Différentes régions de la partie est de l'Ukraine est devenue russe, la partie russophone. Et ces derniers temps, la tactique militaire des Russes a changé et est devenue beaucoup plus asymétrique. Une asymétrie qu'il aurait appris en Syrie lors du conflit avec Daesh. Tout de suite, vous allez voir le reportage et ensuite, nous recevrons nos invités sur le plateau.
Porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a regretté samedi la révocation par l'Ukraine de l'accréditation de l'ambassadeur iranien, déclarant que cette décision était basée sur des rapports non confirmés et résultait du battage médiatique de partis étrangères. L'Ukraine a déclaré vendredi qu'elle allait retirer l'accréditation de l'ambassadeur iranien et réduire considérablement le nombre de membres du personnel diplomatique à l'ambassade d'Iran à Kiev en raison de ce qu'elle a appelé la décision inamicale de Téhéran de fournir des drones aux forces russes. En réaction à ces affirmations, M. Kanani a une fois de plus réitéré la position explicite de l'Iran sur la neutralité active dans le conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie. L'Iran s'oppose à la guerre et insiste sur la nécessité de régler les différends par des voies politiques sans aucune violence, a souligné le porte-parole iranien. Il a noté que les nombreuses réunions et contacts entre le ministre iranien des Affaires étrangères et ses homologues russes et ukrainiens au cours des derniers mois ont été conformes à la politique visant à aider à résoudre la crise. M. Kanani a conseillé au gouvernement ukrainien de s'abstenir de se laisser influencer par des tiers qui cherchent à détruire les relations entre les deux pays. L'Iran a par le passé rejeté les affirmations concernant son projet de vendre des centaines de drones à Moscou et de former les pilotes russes à leur utilisation, affirmant que le pays n'aiderait aucun des deux camps en guerre. La Russie a lancé une opération militaire spéciale en Ukraine le 24 février, affirmant qu'elle visait à démilitariser la région de Donbass dans l'est de l'Ukraine, qui est composée des républiques de Donetsk et de Lugansk. La Russie a drastiquement changé sa méthode de combat ces dernières semaines, retirant une grande partie de ses troupes, mais favorisant une tactique asymétrique, provoquant plus de destruction du matériel militaire ennemi. Des tactiques pas inconnues à la Russie suite à son expérience en Syrie, où la résistance et les conseillers militaires iraniens étaient présents. L'expérience qui, à l'heure actuelle, leur profite grandement et qui pousse même les Ukrainiens à en rendre responsable l'Iran.
Donc, comme vous l'avez compris, donc le sujet est le conflit en Ukraine. Nous avons nos deux invités sur le plateau aujourd'hui, présents virtuellement. Notre premier invité, M. Arnaud Develay, juriste. Bonjour, maître, en direct de Damas.
Oui, bonjour à vous. En fait, c'est en direct de Moscou aujourd'hui.
Ah, en direct de Moscou.
Bonjour à vous et bonjour à votre invité.
Merci beaucoup, M. Develay. Maître Develay. M. Luc Michel, notre deuxième invité. Bonjour, M. Luc Michel, donc géopoliticien à Bruxelles.
Bonjour à vous, bonjour à Maître Develay. C'est un plaisir de vous, comme d'habitude.
Alors, merci à vous de nous avoir rejoints. Donc, le sujet encore, mais cette fois d'un point de vue purement militaire, c'est l'Ukraine. L'Ukraine et le conflit qui a changé hein, ces deux dernières semaines. On voit que le conflit est différent. On s'aperçoit que la tactique militaire est devenue beaucoup plus asymétrique. Monsieur Develay, l'expérience asymétrique de la Russie vient directement à la Syrie. On parle souvent du fait que le Hezbollah et la résistance s'est beaucoup améliorée ces dernières années grâce à leur expérience avec les Russes. Mais on parle rarement de l'expérience inverse des Russes face aux techniques de la résistance qui est beaucoup plus asymétrique et très inspirée des bases militaires iraniennes. Qu'en pensez-vous ?
Tout d'abord, sur le thème de l'émission d'aujourd'hui, quand on laisse entendre que Kiev aurait pris certaines mesures ponctuelles concernant la réduction de la voilure de la présence diplomatique de la République islamique d'Iran en Ukraine, je pense qu'il faut raison garder du regard à qui vraiment on s'exprime. Déjà, pour peu qu'on puisse parler d'un gouvernement ukrainien qui soit indépendant et souverain. Et partant de là, on peut penser que certaines de ces positions peuvent être, si je puis dire, murmurées à l'oreille des gens qui sont à Kiev. Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, je dirais, eu égard à la question plus technique qui porterait sur l'intégration des méthodes asymétriques. Et Luc Michel l'avait bien souligné à plusieurs reprises, mise au point, développée et raffinée par la résistance depuis au moins 2006. Oui, la Russie a parfaitement pris en compte cette évolution de l'art de la guerre. Et je pense que dans ce contexte-là, les visites et l'installation des permanences à Moscou, tantôt que ce soit le Hezbollah, tantôt que ce soit le Hamas, et la visite récente de la résistance yéménite à Moscou, je pense qu'il illustre parfaitement le point fondamental d'aujourd'hui, à savoir que les composants de la résistance s'intègre de plus en plus dans cette stratégie, on va dire, globale, maintenant, puisqu'on a visiblement de plus en plus, chaque jour qui passe, une confrontation qui regroupe d'un côté ce qu'on appelle l'Occident collectif et de l'autre, alors c'est selon la résistance plus ses alliés, ou, si on veut regarder les choses plus au travers du prisme de l'Ukraine, la Russie et ses partenaires. Et donc, dans ce contexte-là, on observe interopérabilité entre les moyens, les tactiques militaires qui peuvent être étudiées, et mises en œuvre et incorporées dans les doctrines au sein du ministère russe de la Défense, et bien sûr des expériences sur le terrain, glanées tantôt en Syrie, tantôt dans d'autres théâtres d'opération, en imaginant qu'il va certainement y avoir une accentuation de cette interopérabilité.
Merci, monsieur, maître Arnaud Develay. Monsieur Luc Michel, à votre tour, qu'est-ce que vous pensez, sachant que cette technique de tactique militaire asymétrique est extrêmement utilisée en Iran? On rappelle que c'est grâce à ça que les mers territoriales iraniennes sont tout le temps, de manière permanente, protégées par les forces iraniennes, que même les États-Unis, malgré différents essais, n'ont pas réussi à déjouer cette asymétrie. Est-ce que vous pensez, comme maître Develay, qu'on voit bien la Russie utiliser cette technique, une technique qu'il a dû certainement apprendre au contact de la résistance en Syrie lorsqu'il y avait une grosse proportion de daéchistes sur le terrain? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Luc Michel?
Bon, tout d'abord, il faut dire un mot sur le contentieux diplomatique entre l'Ukraine et l'Iran. En fait, le conflit n'est pas un conflit russe contre l'Iran, c'est un conflit de la Russie contre l'OTAN et les États-Unis. Et on trouve normal du côté de l'OTAN à Bruxelles et à Washington de fournir des armes, des mercenaires, de l'équipement, de l'entraînement, en disant qu'on ne franchit pas la ligne rouge qui est de devenir co-belligérant. Mais dès que l'Iran est accusé de fournir des drones à la Russie, évidemment, elle est considérée comme belligérante et l'Ukraine rompt les relations diplomatiques. Le but, c'est la campagne de basse intensité qui est menée contre l'Iran actuellement. Il faut montrer l'Iran comme le méchant. Il y a la déstabilisation de l'Iran dans une tentative de révolution de couleur. Il y a les accusations contre l'Iran dans tout le Proche-Orient. Il y a le sabotage de la négociation du nucléaire civil iranien qu'on précise du côté de l'Occident d'être la faute des Iraniens. Voilà donc pourquoi l'Ukraine suit la voie de son maître et elle mène une politique anti-iranienne qui est décidée à Washington. Maintenant, il faut parler de la guerre. Non pas la guerre asymétrique, c'est une erreur de l'appeler comme ça. Ce que la Russie et l'Iran pratiquent, c'est la guerre hybride. C'est une nouvelle forme de guerre qui est considérée comme une guerre de l'ère post-Clausewitz. Post-Clausewitz, c'est le général prussien qui, après Napoléon, a défini, c'est encore le cas maintenant pour toutes les académies militaires, la guerre classique. La guerre hybride, évidemment, elle dépasse cette guerre de Clausewitz, c'est une guerre multidimensionnelle. La guerre hybride, elle a été inventée par le Hezbollah et l'Iran au Liban en 2006 de l'aveu même de l'OTAN. L'Ukraine n'a pas attendu, la Russie n'a pas attendu la Syrie pour réinventer sa propre version de la guerre hybride. C'est le général russe Gerasimov, qui est encore aujourd'hui le chef d'état-major russe, qui en 2013 a défini la version russe de la guerre hybride, justement en Ukraine, dans le Donbass, qui aboutit à l'indépendance de Donetsk, de Lugansk et de la Crimée. Ensuite, évidemment, la collaboration de l'Iran et de la Russie dans la Syrie, ça a affiné les tactiques des deux côtés. Ça a affiné les tactiques iraniennes et les tactiques russes qui se sont inspirées volontairement tous les deux de la même période d'activité. Ce qui caractérise principalement la guerre hybride russe et iranienne, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des acteurs géopolitiques non étatiques. Du côté de la Russie, ce sont les partis-États de l'axe de la résistance, Ansarallah, le Hezbollah, les comités de défense populaire en Syrie, etc. Et du côté russe, ce sont les fers militaires, ce que l'Occident appelle le groupe Wagner, mais qui en fait est constitué de 11 fers paramilitaires, dans lequel il n'y a pas de groupe Wagner. Par exemple, au Mali ou en Centrafrique, c'est un groupe qui s'appelle Sewa Security.
Merci, monsieur Luc Michel. Alors, monsieur maître Arnaud Develay, vous êtes à Moscou. Qu'est-ce qui se dit à Moscou? Parce que si on regarde l'actualité médiatique mondiale, on donne la Russie perdante puisqu'elle a retiré ses forces d'une grande partie de l'Ukraine. Vous êtes à Moscou. Qu'est-ce qu'on dit là-bas?
Je peux vous dire que, essentiellement, tout ce qui constitue des éléments de langage venant de l'Occident et de ses médias affiliés, complètement otanisés, et certes pris en compte parce qu'il faut comprendre un petit peu le narratif qu'ils essayent d'imposer, mais les gens qui sont amenés à prendre les décisions et les mettre en œuvre ne se préoccupent pas plus de ce bourdonnement que cela. Les gens sont relativement confiants, ils font confiance à leurs dirigeants. Je rappelle que le président Poutine est crédité de 83% d'opinion favorable. Aujourd'hui, c'est le grand discours qui a lieu, d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, qui porte sur la reconnaissance officielle par la Fédération de Russie, donc des résultats sortis des urnes. Et que dans ce contexte-là, maintenant, je pense que c'est une préparation à une phase nouvelle, eu égard aux opérations militaires, qui n'aura certainement en tant que telle rien à voir avec l'opération militaire spéciale, mais qui va maintenant s'enclencher dans une dynamique beaucoup plus intensive. Et la situation en Ukraine, si je puis dire militairement, on nous avait pensé qu'il y avait eu, au travers de cette, entre guillemets, contre-offensive dans la région de Kharkov, un revers cuisant pour l'armée russe, mais il n'en est rien. En fait, c'était plus un retrait, non pas une débâcle, une retraite militaire. Donc, cette partie du front était d'ailleurs plus ou moins occupée du côté de la Russie et de ses alliés par tantôt des milices affiliées donc aux Républiques populaires, donc des gens qui n'ont pas forcément le degré d'entraînement et de préparation, sachant que le gros des troupes russes qui sont elles formées, si je puis dire, à l'art de la guerre, et des troupes, si ce n'est pas des troupes d'élite, en tout cas qui exhibe un grand professionnalisme, était plutôt dans la région de Kherson. Donc les Russes ont anticipé bien sûr ce qui se préparait, puisqu'il était bien sûr évoqué le sujet plus ou moins en filigrane depuis plusieurs jours avant la mise en œuvre des opérations. La Russie a opté donc pour un retrait préemptif, en essayant d'évacuer autant de civils que possible, puisque visiblement on pouvait s'attendre à des représailles de la part des groupes les plus radicaux que Kiev utilise pour punir les populations qui seraient tentées de, selon eux, fraterniser avec la Russie ou recevoir de l'aide humanitaire qui maintenant est une offense, un délit pénal punissable par 3 ans par Kiev. Et on apprend aussi que, visiblement, les représailles ont commencé dans les régions, dans les villes comme Izium, où, au-delà des opérations psychologiques visant à accuser la Russie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, on apprend maintenant que plusieurs milliers de personnes, principalement des gens qui travaillaient dans le secteur public, que ce soit dans le médical ou dans l'humanitaire de manière générale, avaient été collectés à leur domicile et emmenés dans des lieux inconnus pour ne jamais réapparaître essentiellement. Donc c'est un petit peu ce qui se passe sur le terrain militaire. Les régions et les républiques elles-mêmes, je reviens là de mission d'observation des référendums, tout s'est relativement bien passé. Si ce n'est que bon, dans la région de Kherson, effectivement, les opérations sont beaucoup plus intenses et on a pu observer des mesures de sécurité, de sécurisation du territoire et des bureaux de vote qui correspondaient et obéissaient à des protocoles beaucoup plus exigeants que, par exemple, à Lugansk, où tout était assez calme. Et à Donetsk, il a pu y avoir des attaques à l'obus sur le centre de la ville. Mais dans l'ensemble, encore une fois, les gens se sont déplacés en masse parce que simplement ils n'en peuvent plus et ces référendums leur permettent juridiquement, selon eux, de rejoindre la mère patrie et obtenir surtout la protection qu'ils demandent depuis maintenant plus de 8 ans.
Merci,
donc,
maître Develet.
C'est un peu un petit peu ce qui se passe en ce moment, le mood, en tout cas les propos qui sont plus ou moins tenus et échangés à Moscou. Mais il n'est en aucun cas question de panique ou de remise en cause. C'est bien le contraire. À la limite, c'est un désir d'en finir assez tôt et ne pas laisser cette situation dégénérer.
Merci, maître Develet.
On a de plus en plus de raisons de penser que l'Occident n'a pas l'intention de pousser Kiev à revenir à la table des négociations.
Merci, maître Develet. Monsieur Luc Michel, est-ce que vous êtes confiant également, comme vient de l'indiquer maître Develet, concernant la situation, le conflit? Parce que si on en croit les Européens, les Russes se préparent à 5 ans de conflit. Là, il s'avère que quand même les Russes ont fait un pas en avant énorme en reconnaissant donc les différents territoires ukrainiens comme étant russes grâce au référendum. Et ça s'est fait en une étape de quelques semaines. Donc, est-ce que là, on est au top du conflit? Donc, au moment où c'est le plus intense, et est-ce qu'on va arriver vers une désescalade?
Écoutez, là, l'Ukraine, c'est avant tout une guerre médiatique. La guerre médiatique occidentale, elle repose sur le mensonge et sur les mensonges de Kiev. Kiev fait comme les nazis entre 1942 et 1945. Ils annoncent des victoires où il y a des défaites. Ils annoncent l'arrivée d'armes merveilleuses. Vous savez que les Allemands croyaient au Wunderwaffen. Aujourd'hui, on annonce des armes françaises, américaines, etc. Mais en réalité, le maître des horloges, c'est Vladimir Poutine. Les Ukrainiens et les Russes se disputent dans les régions de Kharkov et de Kherson, environ 6000 km². Mais aujourd'hui, la Russie vient d'annexer 120 000 km², un territoire plus grand que la surface de la Suisse. Et ces terres étaient avant 1917, étaient russes, c'était ce qu'on appelait la Novorossie. En particulier, les quatre régions qui ont été annexées formaient alors un gouvernorat indépendant de Moscou, le gouvernorat de Tauride, dont faisait partie la Crimée, qui était basée à Sébastopol. Donc, il n'y a pas du tout. La victoire est des Russes, malgré ce que peut ajouter. Hier, il y avait un article très intéressant dans le journal français Le Figaro. Ils expliquaient que la guerre était en train de changer, précisément avec l'arrivée des drones iraniens qui sont en train de détruire sur le terrain, des drones kamikazes, de détruire le matériel occidental, en particulier les missiles HIMARS et les canons César français. Voilà ce qu'il faut retenir, évidemment. Bien entendu, il n'y a pas du tout de recul de la Russie. Maintenant, que veulent les Américains? Parce que c'est eux qui décident. L'OTAN a un rôle purement passif de suiveur des États-Unis. C'est de se battre le plus longtemps possible, jusqu'à la dernière goutte de sang du dernier soldat ukrainien, en détruisant l'image de la Russie et en creusant un fossé non comblable entre Kiev et Moscou. Mais cela, évidemment, les Ukrainiens sont complices de cette guerre à outrance parce qu'on leur fait croire qu'ils vont gagner contre la Russie. Et ils sont simplement en train de se lancer dans une course au néant qui verra la destruction de la Russie, de l'Ukraine, en tant qu'État. C'est clairement annoncé par Poutine et les autres. Après les régions qui sont déclarées hier indépendantes, et aujourd'hui qui vont rejoindre la Fédération de Russie, il y aura encore deux régions qui doivent passer du côté russe, c'est Odessa et Kharkov.
Merci Luc Michel. Un dernier mot peut-être, maître Develet?
Oui, je ferai l'écho de ce que disait Luc Michel à l'instant, à savoir que la grande tragédie, c'est surtout le peuple ukrainien qui se laisse malheureusement pousser dans un hachoir, parce que Il n'a objectivement et monétairement aucune raison d'imaginer qu'une victoire militaire soit possible. C'est bien plutôt le contraire avec le temps qui passe. Et je pense que, contrairement à ce qu'on peut lire dans les journaux occidentaux sur le fait que la Russie serait épuisée ou que la morale serait basse au sein de ses troupes, c'est tout à fait le contraire. la mobilisation, l'appel de mobilisation partielle a vu en fait un influx de gens avec une expérience militaire se présenter au bureau de recrutement. Et je peux vous dire que d'ici quelques semaines, peut-être même quelques jours, on va commencer à comprendre que la Russie a tout à fait les moyens de ses ambitions quant à mettre un terme à ce conflit une fois pour toutes.
Merci, Maître de Velay. Je vous remercie. Malheureusement, c'est là que s'arrête le débat. Je remercie à nos deux invités, M. Luc Michel et Maître Arnaud de Velay, tous deux entre Bruxelles et Moscou, d'être intervenus lors de ce débat. Moi, je vous dis au revoir et je vous dis donc à la prochaine fois pour un prochain débat.
Chers amis auditeurs, merci d'être avec nous pour ce programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Le ministère iranien des renseignements affirme que les États-Unis et le Royaume-Uni ont été directement impliqués dans les récentes émeutes à travers l'Iran. Des dizaines de terroristes affiliés au régime sioniste et au groupe anti-révolution ont été arrêtés au cours des derniers jours de troubles, a indiqué le ministère dans un communiqué vendredi 30 septembre. De violentes manifestations ont éclaté dans tout le pays. Des agents de sécurité ont été attaqués, des biens publics ainsi que des véhicules de police et des ambulances ont été vandalisés. Le ministère des Renseignements a déclaré que les principaux éléments à l'origine des émeutes étaient en grande partie des citoyens étrangers, des membres de l'organisation terroriste anti-iranienne Mujahideen Khalr, OMK, en Albanie, et des personnes travaillant avec d'autres groupes terroristes anti-révolution. Le ministère des Renseignements a souligné que 49 terroristes OMK avaient été arrêtés pour avoir activement propagé de fausses nouvelles, incité les émeutiers à organiser des actes de terreur et de destruction, dirigé des slogans et pour avoir été présents dans les rues pour endommager les biens publics. Le ministère a indiqué que 77 membres de groupes terroristes anti-iraniens avaient également été arrêtés dans la région du Kurdistan irakien. La déclaration a souligné la détention de 5 membres des groupes terroristes avec 66 kg d'explosifs qui devaient être utilisés pour effectuer des attentats à la bombe lors des rassemblements. Le ministère a en outre déclaré que 92 personnes affiliées à l'ancien régime Pahlavi, soutenues par les États-Unis, avaient été également identifiées et arrêtées lors des émeutes. Il a ajouté que 9 ressortissants d'Allemagne, de Pologne, d'Italie, de France, des Pays-Bas et de Suède, entre autres, avaient été arrêtés lors des émeutes. Le ministère des Renseignements a également déclaré qu'un nombre important de pistolets, divers types de mitrailleuses et de cartouches ainsi que des fusils de chasse et des munitions avaient été saisis. La 86e flotte de la marine iranienne met le cap sur l'Atlantique. La flotte 86 de la marine de l'armée de la République islamique d'Iran a entrepris son périple le 28 septembre en vue de traverser toutes les eaux du globe, annoncé le commandant de la marine iranienne. Faisant référence à la partie internationale du parcours, l'amiral Shahram Irani, commandant de la marine de l'armée de la République islamique d'Iran, a déclaré ce vendredi 30 septembre que sur ordre du commandant en chef des forces armées iraniennes, l'Ayatollah Ali Khamenei, émis suite au vol d'un navire iranien en 2007, les forces navales du pays ont été mises en place afin de garantir la sécurité maritime et ont escorté depuis lors 5000 navires iraniens. Il a noté que la présence des forces armées iraniennes dans les profondeurs des océans n'est pas seulement pour assurer la sécurité de l'Iran, mais de tout navire qui en aurait besoin, se félicitant du fait que les organisations internationales ont honoré la marine iranienne à deux reprises, notamment pour avoir établi la sécurité maritime dans la région et dans le monde. Selon lui, la 86e flotte de la marine de la République islamique d'Iran, porteuse d'un message de paix et d'amitié au monde entier, est partie le 28 septembre pour faire le tour du monde en traversant toutes les voies navigables de la planète. Plus loin, dans son discours, il a salué le déploiement en mer de trois destroyers de fabrication entièrement iranienne, à savoir le destroyer Jamaran et son navire de soutien au combat dans le golfe d'Aden et la mer Rouge, le destroyer Sahand et le destroyer Dena, qui fait partie de la flotte 86 de la marine de l'armée iranienne. L'Iran frappera les États-Unis si les avions US abattent les transiraniens. Les terroristes retranchés dans le nord de l'Irak, qui ont osé attaquer les postes de contrôle frontaliers iraniens ces derniers jours, ont été soumis à des frappes hybrides, drones, missiles, artillerie, hélicoptères depuis une semaine. Le CGRI a promis de poursuivre jusqu'à l'anéantissement total de ces cellules terroristes. Mais ce groupe Pajak, créature du duo CIA Mossad, qui vient de perdre des dizaines de repères et au moins 8 camps d'entraînement, l'Amérique volera-t-elle à son secours? Une tentation à laquelle le chef d'état-major iranien a coupé court. Si les Américains prennent des mesures contre nos drones, les forces armées iraniennes se réservent pleinement le droit de riposter de manière décisive, a martelé le général de division Mohammad Bareilly, chef d'état-major général des forces armées iraniennes, sur l'allégation d'abattage d'un drone iranien par les forces américaines dans la région nord de l'Irak. Le général Bareilly a souligné que les forces armées de la République islamique d'Iran disposent de données complètes, précises et approfondies sur les bases d'Al-Arir, d'Erbil et de Douk en Irak. Nous avertissons que si les forces américaines commettent la moindre erreur, l'Iran se réserve le droit de riposter et de mener une action militaire dure contre elle en temps et lieu approprié. S'adressant aux pays voisins où se trouvent des bases américaines et israéliennes, le haut commandant militaire iranien a déclaré que si les intérêts nationaux et la sécurité de l'Iran sont menacés par ces bases terroristes américaines, l'Iran y répondra de manière écrasante. L'amitié avec les pays voisins obéit à ses propres règles, et si ces règles ne sont pas respectées, ils doivent s'attendre à une réponse logique et réciproque, a fait savoir le général Bareilly. Pour rappel, le jeudi 29 septembre, un total de 46 bases terroristes ont été visées par 73 missiles tactiques sol-sol et une vingtaine de drones kamikazes Shahed 136. Le général de brigade Mohammad Pakour, commandant des forces terrestres du corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré que ces forces avaient pilonné les sites terroristes dans la région du Kurdistan irakien avec des dizaines de missiles balistiques et des drones kamikazes, et a promis que le CGRI continuerait à pilonner les bases terroristes. Les avions de combat des forces aérospatiales russes ont mené vendredi 30 septembre au moins 12 frappes aériennes sur le grand Idlib, visant les zones proches des villes de Meysepin et Reveyha, où se trouvent les positions des terroristes Rayat Tahrir al-Sham, soutenus par Ankara et affiliés à Al-Qaïda, et ont fait au moins 20 morts et de nombreux blessés. Selon des sources proches du gouvernement syrien, les frappes ont été menées en représailles aux violations répétées par Rayat Tahrir al-Sham du cessez-le-feu dans le grand Idlib, négocié par la Russie et la Turquie il y a plus de 2 ans. Ces derniers jours, les snipers de Rayat Tahrir al-Sham se sont livrés à plusieurs opérations. Ces frappes coïncident d'ailleurs avec le 7e anniversaire du début des opérations antiterroristes russes en Syrie. Les toutes premières frappes aériennes russes dans le pays ont visé des positions clés de Rayat Tahrir al-Sham, alors connues sous le nom de Front al-Nusra, dans le grand Idlib et dans plusieurs autres régions. À Al-Tanf, dans le sud-est de la Syrie, les Syriens ont protesté contre la présence des terroristes Marawi al-Sawra, affiliés à la coalition américaine. Les protestations ont commencé le 27 septembre dans le camp de réfugiés d'Al-Rukban, situé à quelques kilomètres seulement de la base américaine d'Al-Tanf, où quelques 200 soldats américains et 300 terroristes de Maravir al-Saoura sont généralement déployés. La coalition américaine maintient une zone d'exclusion aérienne de 55 km autour de cette base, couvrant le camp d'Al-Rukban, où des centaines d'autres terroristes sont présents. Un rapport publié ce jeudi 29 septembre par le site web du journal israélien Yediot Aharonot a mis au point les problèmes essentiels des opérations de l'armée israélienne au cœur de la Cisjordanie et en plein jour. D'après ce rapport, ces opérations de l'armée israélienne censées lutter contre l'opération armée des Palestiniens constituent elles-mêmes une menace directe pour la sécurité d'Israël et ses colons. Selon le rapport, les niveaux de sécurité en Israël sont préoccupés par l'ampleur croissante de l'escalade visant à restreindre les activités armées palestiniennes, dont les résultats du côté palestinien peuvent impliquer des jeunes qui n'avaient pas auparavant participé à aucune activité armée en représailles. Au troisième jour des attaques des colons contre la mosquée Al-Aqsa, mercredi 26 septembre, 4 Palestiniens ont été tués et plus de 40 autres blessés lors d'un raid militaire israélien sur un camp de réfugiés à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Le raid a commencé avec des dizaines de véhicules militaires israéliens entrant dans le camp vers 9h du matin, 6h GMT. Des panaches de fumée ont été aperçus après l'explosion du missile dans une maison. L'armée a ensuite encerclé la maison, au cours de laquelle de violents affrontements armés ont éclaté avec des combattants palestiniens. Les affrontements se poursuivaient à la mi-journée. En plus des combattants palestiniens armés échangeant des coups de feu avec l'armée israélienne, de jeunes Palestiniens ont lancé des pierres à l'entrée du camp de réfugiés de Jenin, auxquelles les forces israéliennes ont répondu avec des balles réelles et des gaz lacrymogènes. Ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous la semaine prochaine.